Radio Campus Lille, midi.
Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus.
Il est midi sur les antennes de Radio Campus et vous écoutez l'émission Angle d'attaque. Alors l'angle d'attaque, c'est l'émission de l'association ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Une émission proposée par ATTAC Métropole avec à la manœuvre l'ami Florent. Bonjour Florent.
Bonjour.
Et à l'animation, et en l'absence de Christian et de René Lassian, ce qu'on ne manque pas de saluer au passage, Louis.
Bonjour.
Et moi-même, donc Ludovic, qui va animer donc l'émission. Donc comme à l'accoutumée, après une pause musicale, vous retrouverez les actualités d'ATTAC, nos coups de gueule et le calendrier militant. Et pour commencer, envisageons donc la thématique de l'émission de ce mois-ci, à savoir l'effervescence politique et sociale consécutive au projet de la loi El Khomri. ATTAC pouvait difficilement ne pas évoquer cette actualité chaude qui dure quasiment depuis 4 mois. Pour en parler, on a de nombreux invités. Tout d'abord, Camille et Camille. Vous êtes tous les trois représentants en tout cas des acteurs, on va dire, de Nuit Debout. Et puis, on a également Abdel et Adjila. Bonjour Abdel et Adjila, vous êtes tous les deux représentants de la CGT de Roubaix. Donc on va évoquer à la fois le projet de la loi El Khomri et la Nuit Debout, parce que c'est deux mouvements qui se sont succédés durant cette période qui n'est pas terminée. Je laisse donc le soin à Louis de nous présenter, peut-être en guise d'introduction, l'objet de cette émission.
Quelques mots, absolument. Ce projet de loi El Khomri, du nom de la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, on aurait également pu l'appeler projet de loi Valls, puisque rappelons qu'au terme de l'article 39 de la Constitution, c'est au Premier ministre qu'appartient du moins l'initiative des lois. Ou encore projet de loi Hollande, puisqu'en temps de concordance des majorités, à tout seigneur, tout honneur, c'est au monarque présidentiel qu'il revient d'arbitrer. Mais ce projet de purge sociale, on aurait de même pu le nommer projet de loi Moscovici, ou Juncker, puisqu'il n'est que l'appendice des GOP, grandes orientations de politique économique décidées par la Commission européenne. Projet de loi Draghi, puisque nous l'évoquions il y a 2 mois maintenant en compagnie de l'économiste atterré Thomas Dalry, ce projet de loi n'est finalement autre chose qu'une dévaluation interne. Ou encore projet de loi Eucken, Schröder, Merkel, Schäuble, dont l'ordolibéralisme allemand s'érige actuellement en cage de fer pour le vieux continent. Alors où en sommes-nous de l'élaboration de la loi en ce jour du 110 mars, à l'aune du calendrier martien adopté depuis le 31 mars dernier par Nuit Debout ? Eh bien récemment considéré comme adopté par l'Assemblée nationale sous l'empire du fameux troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le projet de loi dit « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs », de quoi se plaint-on ? Et depuis lundi, et ce jusqu'au vendredi de la semaine prochaine, examiné par des sénateurs bien décidés, entre autres choses, à faire sauter le verrou des 35 heures. Saluons donc à minima la magnanimité de nos inépuisables sénateurs, manifestement résolus à combattre la morosité ambiante par le comique de répétition. Au préalable, dans la droite ligne des rapports successifs à Tal, Galois, Combrexelles, Badinter-Lyon, Caen, au sein desquels, précisons-le, leurs auteurs se sont toujours bien gardés de toute démonstration du prétendu lien entre la protection sociale des travailleurs et le taux de chômage, le projet de loi travail figurait initialement à l'ordre du jour du Conseil des ministres du 9 mars. C'était cependant sans compter sur les salariés, chômeurs, étudiants et autres précaires, tous promis à demeurer les grands perdants de cette course au moins-disant social. Reporté pour être délesté de l'encadrement des indemnités prud'homales contestées dans les rues, malmené par plus d'1 350 000 citoyens internautes, bientôt discutés au sortir des séances de Merci Patron, puis sur les places publiques, le projet de loi El Khomri cristallise autour de lui, et depuis 3 mois maintenant, une tension sociale, à la fois une et plurielle, dont vous êtes ici toutes et tous acteurs, ce dont nous allons discuter ensemble.
Alors merci Louis donc pour cette introduction. Et du coup je me tourne vers Abdel donc de la CGT. En quoi ce projet de loi représente à vos yeux une régression sociale ?
Alors, je vais déjà mettre un petit pavé dans la mare, parce qu'en ce moment, on entend, et très récemment, notamment le secrétaire général Martinez, qui a été reçu au bout de quelques mois par Myriam El Khomri, et qui aujourd'hui, on entend un petit peu, mais venant même du plus haut sommet de l'État, j'allais dire, hein, le fameux article 2 qui pose souci, etc. Or, nous, localement, nationalement, les gens de la base, etc., les seules banderoles que je vois depuis moi, 9 manifestations et je ne sais pas combien de blocages et autres actions diverses, le seul slogan adage qui est sur les banderoles, c'est « retrait de la loi ». Donc, en clair, aujourd'hui, je vais... Est-ce qu'il faut que je polémique et je rentre dans le jeu de refaire ou pas l'article 2, ce qui pose problème ou pas? Moi, je pense que cette loi, c'est la continuité logique des différents parties de loi, notamment la loi Macron, la loi Rebsamen, si on se contente que du franco-français. Et si je dis ça, c'est parce que c'est pas anodin. On voit bien que cette loi n'est absolument pas franco-française. Hein, elle n'est pas propre à remettre en cause ou pas le code du travail en France, mais elle est bien européenne. Et j'en veux pour preuve encore, il y a encore une quinzaine de jours où on a manifesté avec nos camarades belges, hein, et qui, eux, ben, sont exactement sur la même lignée que nous. Ça, on peut pas le tolérer. Alors aujourd'hui, moi, le mot d'ordre, il est encore clair, ou alors on m'a pris pour un imbécile pendant 3 mois, c'est le retrait pur et simple de cette loi. Et je pense qu'en discuter, même ne serait-ce qu'au niveau de l'article 2, la fameuse colonne vertébrale, pour toujours paraphraser notre secrétaire général, c'est rentrer dans ce jeu. Et ça, c'est pas admissible. On retire la loi, on fait les propositions, et voilà. Il n'y a pas à remettre en cause l'article 2, l'article 3 ou l'article 49 de cette loi. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, c'est une loi scélérate, c'est une régression. Ça va nous tomber sur la gueule, mais alors vitesse grand V, parce qu'il n'y a qu'un objectif derrière tout ça, c'est la libéralisation du travail. Et c'est tout. La libéralisation de l'économie. Et ça, c'est pas admissible. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à essayer de dire oui. Alors, il y a quelques articles dans l'article 2 qui font que est-ce qu'on va revoir la hiérarchie des normes, etc. La hiérarchie des normes, moi, en tant que secrétaire général à la CGT et en tant que militant de base, surtout. Les salariés, on les reçoit tous les jours. Les salariés, la hiérarchie des normes, il y a longtemps que les employeurs s'assoient dessus. Il y a longtemps. Aujourd'hui, les employeurs n'hésitent pas à dire à un salarié « Demain, tu ne viens pas travailler parce que c'est comme ça, etc. etc. » J'ai des gens qui, ça fait 2-3 mois, qui n'ont pas été payés. J'ai des entreprises qui font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, on essaye d'acter, de légaliser tout ça. Parce que c'est tout... Je vous le dis, j'ai vraiment une réelle difficulté à participer, à dire est-ce que cette loi est bien ou pas. Moi, personnellement, j'en veux pas, parce que c'est une régression. De toute façon, c'est prouvé et approuvé, c'est une régression. Et en plus, ça a été fait dans un contexte qui fait que... Donc, il y a beaucoup de paramètres, et je pense qu'il faut en discuter un peu plus longuement, parce que, d'après mon expérience, depuis ces 3 derniers mois, quasiment tous les jours dehors, pour une manif, comme je vous l'ai dit, manif organisée, et les différentes actions, etc., le but de tout ça, c'est de dire, nous, on n'a qu'un seul slogan, c'est le retrait de la loi. Il n'y a pas à négocier quoi que ce soit avec El Khomri, Valls, Macron, le MEDEF et tout ce qui va avec, et l'Europe surtout, parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ça.
Oui, ça nous semble important de le souligner. On discute certes beaucoup de l'article 2 du projet de loi, mais il nous faudrait également prendre le temps de revenir sur la réforme de la médecine du travail, de l'article 52 qui permettrait à Pôle emploi de déduire directement des futures allocations chômage, les sommes versées à tort aux chômeurs, la réécriture du chapitre sur les licenciements économiques, sur le mandatement syndical. Parce que c'est vrai que dans l'absolu, le risque, c'est surtout celui qu'emporte avec lui un capital qui n'a désormais plus aucun sens de l'abus. Une réforme, puisqu'ils n'ont que ce mot-là à la bouche, en appellera nécessairement une autre. Combien de coups portés contre les travailleurs depuis la suppression de l'autorisation administrative du licenciement au milieu des années 80 ? On a notamment pu le constater sur les ruines de la Grèce. Ruines de la Grèce qui nous enseigne que le précédent de Chypre était tout sauf un accident. Qui peut croire que la course au moins-disant social cessera après la loi El Khomri si elle venait à entrer en vigueur, que l'on cessera de nous répéter ensuite qu'il n'y a pas d'alternative.
C'est ça, mais c'est exactement ce que vous décrivez là. C'est, on sait qu'ils ont un objectif, c'est de démolir tout simplement le code du travail, et particulièrement en France, parce qu'on est encore l'un des seuls pays dans ce monde soi-disant humain à avoir justement ce code du travail, cette protection sociale, etc. Et ça, aux yeux de Bruxelles, je vais résumer comme ça, c'est plus admissible. C'est plus admissible. Donc ça, on va vers ça. Et d'ailleurs, sans faire de politique, mais il n'y a pas à être devin pour savoir qu'en 2017, ce que déjà ceux qui se préparent à être candidats à la présidentielle nous affichent clair et net. Juste encore très récemment, le Sénat, l'article 2, pour revenir dessus, les fameux 35 heures, etc. Mmh. Voilà, sa position était claire. Revenir aux 39 heures, etc. Il n'y a pas à discuter du reste. C'est l'objectif visé. Maintenant, le rapport de force, il se crée dans la rue. C'est pas que les syndicats et c'est encore moins que la CGT. Il y a quand même encore 6-7 syndicats largement représentatifs, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau des salariés, largement représentatifs qui revendiquent le retrait pur et simple de cette loi. Et surtout ne pas tomber dans le travers d'essayer de négocier ou de revoir l'article 2 avec un petit truc. Oui, mais alors, bon, allez, on revient, on ne met plus la hiérarchie des normes, on laisse le code du travail comme c'est là actuellement. On sait très bien qu'ils veulent démolir tout ça. Et d'ailleurs, l'histoire très récente le prouve. Vous avez cité la médecine du travail, l'inspection du travail, etc. Tout ça a été réorganisé de telle manière à ce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur le capital. Et ça, c'est pas possible. Alors maintenant, est-ce qu'on accepte une société où on est en train d'américaniser, je vais le dire comme ça, ubériser le système? Voilà, marche ou crève. Et ben moi, j'ai choisi de marcher. Certainement pas crever. Et certainement pas à cause du travail. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel là-dessus.
Alors, en parlant de marché, je rebondis sur ton mot de marché. Vous avez marché, donc manifesté mardi dernier. Où est-ce qu'on est véritablement la mobilisation là depuis mardi dernier, véritablement, parce qu'on a parlé d'une mobilisation massive, du moins si on en croit la CGT, parce que si on en croit la police, c'est un peu, c'est quasiment 75 000 personnes, c'est ça, annoncé par la police.
De 1 à 10, on va dire.
Voilà. Donc voilà, où est-ce qu'on est le mouvement, quelles sont un peu les perspectives? On parle d'une nouvelle journée de grève le 23.
Une journée de grève le 23 qui pour nous va être la départementale, donc sur l'île, 14h30, porte de Paris, c'est important. Après, la mobilisation au niveau des bases, elle est intacte. Elle est intacte et on est même limite, j'allais presque dire, par rapport justement à tous ces événements, limite en frustré. Frustré parce que cette loi, on n'en veut pas. Je reviens à ce que je disais précédemment, c'est important. Parce que cette loi, on n'en veut pas. Donc, on fait tout pour que cette loi, on n'en veut pas. C'est ça, là. Alors, il ne faut pas qu'il y ait quelques arguments que ce soit. Je passe, mais alors tranquillement, ce que les médias colportent, la CGT-ci, la CGT-ça, etc. Bon, ça, c'est leur problème à eux, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai toujours été interviewé et moi, j'ai dit ce que Valls se raconte, etc. On s'en fout complètement. La base, c'est la base. La base, elle est mobilisée. Elle est prête à plus d'actions, etc. Après, eh ben, le système fait que on peut pas tout faire parce qu'on est en grève et quand on est en grève, on n'a pas les moyens, etc. etc. Donc, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, la mobilisation ne faiblit pas. Ça, qu'ils entendent bien. Ou qu'ils soient en France, ça ne faiblit pas. Au contraire, au plus on attend, au plus. Et sans lancer de. Parce que vous aviez cité parmi les invités des gens de Nuit Debout, c'est ça aussi qui fait que. Aujourd'hui, il y a vraiment une prise réelle de la population, une prise de conscience en tout cas. Et voilà. Moi, personnellement, je donne mon avis tout de suite, comme ça, je ne participe pas directement avec. Les personnes de Nuit Debout, mais c'est pour vraiment un problème éthique. Je ne veux absolument pas qu'on me dise est-ce qu'ils récupèrent la CGT ou vice-versa. Est-ce que Nuit Debout ne récupère pas le mouvement syndical, etc., etc. Par contre, je suis parfaitement conscient d'un truc, c'est s'il pouvait y avoir des Nuits Debout et des actions syndicales et des monsieur, madame, tout le monde qui sont ni de Nuit Debout ni des actions syndicales à se bouger, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment le tous ensemble.
Oui, avant d'en venir à Nuit Debout, et puisqu'on évoquait la mobilisation, Tu évoquais l'attitude du gouvernement, qu'on peut quand même pas se contenter de balayer d'un revers de la main sans en dire un mot, parce que c'est quand même important d'appuyer là-dessus, parce qu'on se moque du monde, clairement. Le rendez-vous organisé hier entre la ministre et Martinez n'a abouti qu'à une confirmation, nous a-t-on dit, des désaccords profonds entre le gouvernement et la CGT, mais on peut légitimement se demander s'il est encore possible d'entretenir le dialogue avec un gouvernement qui ferme les yeux sur les violences policières, qui ne manque jamais de recourir à la violence symbolique pour systématiquement dénigrer le mouvement social. Ce serait étudiants nantis contre jeunes sans diplôme précarisés, travailleurs contre chômeurs. Encore récemment, un proche de Hollande déclarait, pour moquer les chiffres de l'intersyndicale, 1 million de manifestants et pourquoi pas 5, ils étaient 75 000 à Paris, si peu qu'on a vu que les casseurs, eux plus nombreux que dans les manifestations précédentes. On est bien loin des mobilisations contre le CPE en 2006 ou les retraites en 2010. On voit par ces mots un gouvernement aux abois qui se raccroche aux branches parce qu'il est tenu par ses engagements européens. Et engagement européen dont on peut rappeler qu'il a renoncé à les renégocier alors qu'il s'y était engagé lors du moment électoral. Et rappelons que Juncker, récemment interrogé sur le projet de loi El Khomri lors de son passage en France, a dit qu'il s'agissait, selon lui, du minimum de ce qu'il faut faire.
Alors, si je peux répondre à ça, je ne balaye pas d'un revers de main. Au contraire, je ne peux être que satisfait de l'attitude aujourd'hui du gouvernement qui s'est pris à son propre piège parce qu'il s'est dit bon, ça va être des manifs comme d'habitude, encore une fois je reviens à ceux qui n'avaient pas les moyens de faire grève, etc. Sauf que là ça traîne en longueur depuis plus de 3 mois, donc le côté est-ce que la mobilisation faiblit? Certainement pas. Et aujourd'hui c'est un gouvernement qui est à l'agonie, il s'attendait pas à celle-là. Donc voilà, et c'est ça le côté j'allais dire bien de tout ça. Non seulement on n'a pas faibli, on va continuer. Le gouvernement aujourd'hui n'a pas d'autre alternative que s'il retire la loi. Je ne suis pas dupe, hein, si c'est lui qui retire la loi, au-delà de son avenir, ça va être sûrement remis sur la table, etc. Le côté, on discrédite, comme la manif, en parlant de la manif parisienne, j'y étais, donc le million de personnes, largement. Après, on nous trouve que, voilà, on a réussi, la CGT pour certains, parce qu'on a quand même mis quelques membres de la CGT pour dire qu'on a cassé des vitrines d'un hôpital, et en plus pas n'importe lequel, Necker. Voilà, c'est pas l'hôpital des armées, hein, c'est l'hôpital Necker, là où il y a des enfants, etc. Donc le côté atroce et tragico-social de tout ça. Mais ça, c'est le gouvernement qui continue dans sa lancée. Je veux dire, moi, ça me dérange pas. Il est pris, il y a l'agonie, le gouvernement. Il y a l'agonie. Encore une fois, moi, si ces ondes puissent être transmises jusqu'à l'Élysée, nous, on dit à Valls, on lâchera rien. Il raconte ce qu'il veut. C'est ça, mon expression de tout à l'heure. C'est pas de balayer d'un revers de manche le côté discrédit. Parce qu'en même temps, ce côté discrédit a fait aussi que beaucoup de personnes grévistes ne sont pas venues manifester. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on disait, dans les manifs, il y a des casseurs, il y a les CRS qui chargent, etc., etc. J'ai fait des manifs, les premières manifs, avec des collègues qui n'étaient jamais venus en manifestation. Quand ils ont vu arriver les bombes lacrymogènes et compagnie, ils se sont dit, oh là là, on est en guérilla, c'est pas possible. Donc je continue à faire grève, je suis solidaire, mais je reste chez moi. Voilà.
Eh bien Manuel, si tu nous écoutes, si tu ne l'étais pas, te voilà prévenu.
Voilà.
Et justement, par rapport à ce discrédit donc fait donc par le gouvernement, comment la CGT réagit en fait, parce qu'effectivement la CGT est jetée, et on lui jette les opprobes en ce moment, hein, comment vous réagissez en fait, parce qu'effectivement on a l'impression qu'effectivement la CGT ne tient plus ses ouailles, hein, que la CGT serait tenue de maintenir les casseurs. Comment vous positionnez par rapport à ça?
Je vais voir avec Philippe Martinez s'il y a moyen de monter une section syndicale de CRS ou je sais pas quoi. Pourtant, on a une CGT police. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est pas à nous de gérer ou pas les casseurs. Les casseurs, ils les connaissent très bien. On est aussi en plein autre événement, c'est l'Euro de football. On voit bien les hooligans et compagnie. Mm-hmm. Comme l'a dit à juste titre Martinez, mais comme je pourrais le répéter tranquillement aussi, on n'hésite pas à coincer les fameux casseurs, hooligans, etc., en moins de 48 heures et garde à vue et tout ce qui va avec. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Ce qui me désole moins dans tout ça, c'est qu'on attaque pas la CGT en tant qu'organisation, parce que on attaque surtout maintenant des individus. Et quelle que soit l'étiquette qu'ils portent, on ne peut pas attaquer les gens comme ça et dire voilà, moi j'ai des camarades ici, comme le camarade de Valenciennes, Douai, etc., où ils se retrouvent en garde à vue, le collègue Antoine qui soi-disant à lui tout seul aurait attaqué 3-4 flics rue Nationale quand il y a eu la fameuse séparation du cortège. Après, je vais prendre quand même le côté positif de tout ça. Je n'ai jamais été aussi fier d'y être et fier d'y lutter que depuis que les médias fustigent entre guillemets la CGT. Voilà, on n'a jamais autant parlé de nous. C'est plus facile de se retrouver en tant que haute organisation dit réformiste, etc. Et ces organisations leur dit réformiste, pour pas les citer, mais au moins une, particulièrement la CFDT. La CFDT ne fait que récolter aujourd'hui le fruit de la continuité des autres syndicats. Elle rentre dans une négociation, on dit oui, bon d'accord, allez, on a obtenu un deux petits trucs, on signe, ils savent très bien que c'est pas assez, mais faut laisser les autres faire. Bon, eh ben nous on fait, nous on assume, on est la CGT. On a 120 ans d'existence. Dans ce pays, on reprend toute l'histoire. Ce ne sont que des luttes sociales qui ont fait qu'on est là où on est aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas, encore une fois, et c'est pour ça que je dis que être en régression sociale, pour moi, c'est absolument inadmissible. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Moi, pour moi, c'est tolérance zéro là-dessus. Je ne laisse pas, moi... c'est pas nous de nous plier à ce fameux monde capitaliste, etc. Ils nous demandent ça. Ils nous demandent de dire, ben voilà, c'est partout comme ça, c'est la mondialisation, vous ne pouvez rien y faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est comme ça. Et ben si c'est comme ça pour eux, c'est pas comme ça pour nous. Voilà.
Oui, on rappelle au passage qu'en studio, on a Florent qui lui aussi pourrait dire bien des choses sur les violences policières. Il a connu ça il y a peu, oui.
Oui, le 29 mars, parmi les premières manifestations contre la loi travail, où on avait organisé un blocage de la route à la sortie de l'autoroute devant le conseil régional, et j'en avais déjà parlé devant ces micros, j'ai juste glissé par terre à un moment donné quand les flics nous avaient bloqué la rue, et une fois que j'étais par terre, ils m'ont frappé et puis ils m'ont mis en garde à vue après, m'accusant de violence contre la police.
Bien sûr. Bien sûr.
Et tu n'es pas le seul, malheureusement, dans ce cas. Nombreux sont été.
Des dizaines de camarades.
Voilà. Effectivement.
Et si je peux me permettre aussi, parce que toujours pour continuer sur le côté attaque de ce gouvernement, etc., l'une des phrases en date qui m'a aussi interpellé, c'est est-ce qu'il faut interdire les manifestations? Voilà. Donc là aussi. J'ai répondu à tous les camarades, en tout cas pour notre localité, etc. Il faut manifester contre l'interdiction de manifester. Voilà.
Bien sûr. Il semblerait que certains oublient qu'on se trouve dans le cadre d'un état de droit et qu'ils ne sont pas omnipotents parce qu'ils sont à l'exécutif. On va donner un petit peu la parole aussi à nos invités de Nuit Debout.
Qui s'impatientent.
Parce qu'accueillir ensemble, d'une part, des participants de Nuit Debout et d'autre part, des militants CGT, c'est accueillir deux manières d'affronter l'ordre actuel, deux types de combats qui se côtoient et qui, sous certains aspects, ne sont pas insusceptibles parfois de rivaliser. Alors, quels sont les liens qui se sont ou non tissés entre vous, entre l'action syndicale, organisée de longue date, centrée autour de la question sociale, de l'organisation du travail, et un mouvement rassemblant en son sein des spectres d'opinion plus hétéroclites, aspirant à demeurer dans un agencement strictement horizontal.
Camille.
L'un des trois Camille, puisque nous n'avons que des Camilles.
Camille 1.
Donc, bonjour, d'abord. Pour l'ensemble des combats et des luttes sur la place de la République, qu'on met en place et auquel on contribue. On a affaire en fait à beaucoup de personnes qui sont hors salariat, que les syndicalistes n'arrivent plus à ramener à eux. Et donc on les politise d'une certaine manière, on fait un peu d'éducation populaire et on arrive à les mettre en action, on arrive à se mettre en action avec ou sans les syndicats, et c'est ce qu'on apporte en plus en fait. Donc par le mouvement Nuit Debout. C'est...
En fait, une des idées de Nuit Debout au départ, c'était vraiment de se constituer comme un mouvement sans étiquette traditionnelle, permettant de rassembler les gens sur la base du fait qu'ils soient juste citoyens. Et ça a permis donc de rassembler des gens d'horizons très divers. Donc il y a des personnes qui sont hors du monde du travail, il y a des personnes qui sont travailleurs, il y a même des personnes qui sont syndiquées, mais qui se retrouvent dans ce mouvement, pas sur la base de leur appartenance à telle ou telle organisation, mais sur la base d'une présence commune, cette présence place de la République, et d'une volonté de rencontrer des personnes vraiment d'horizons très divers pour construire quelque chose. Donc, par rapport au syndicat, on peut dire qu'il y avait au départ, peut-être, enfin, ça a été dit, donc il n'y a pas de raison de s'en cacher, une méfiance ou l'envie de se démarquer de ces organisations traditionnelles. Et je crois qu'au fur et à mesure du temps et des actions, il y a vraiment une complémentarité qui s'est dessinée, puisque les personnes, alors je parle pour mon compte, qui n'étaient pas du tout liées au milieu syndical, ont vu qu'elles avaient beaucoup à apprendre des méthodes, etc., des syndicats, qui avaient vraiment... une réserve de savoir, d'organisation qui était riche. Et c'est quelque chose, donc cet apport des syndicats a permis aussi de continuer, de poursuivre le mouvement, tout en affichant toujours cette volonté de rester indépendant et, voilà, et protéiforme, ce qui est aussi la richesse du mouvement Nuit Debout.
Oui.
Je voudrais juste rajouter qu'en fait, effectivement, Nuit Debout, depuis le début, est aussi solidaire de tous les syndicats, non seulement CGT, mais Sud et les autres, lors des différentes actions, que ce soit au dépôt d'essence de Douchy-les-Mines, dans les manifestations nationales. Tant que nous pouvons être là avec eux, parce que l'objectif est le même, c'est le retrait de cette putain de loi travail, désolé pour le terme, mais nous sommes là.
Parce que que ce soit précisément le projet de loi de réforme du Code du travail, à travers lui, la question sociale qui soit érigée en goutte d'eau en portant que le vase déborde, est-ce que ça donne à Nuit Debout une coloration particulière? Est-ce qu'on peut considérer, pour faire le lien avec le fait syndical, que quelle que soit la diversité des commissions créées par la suite, Nuit Debout, c'est d'abord une contestation de la condition salariale, du salariat comme rapport social, la crainte de l'aliénation, la perspective du troupeau productif, pour reprendre l'image qu'avait employée il y a peu Alain Supiot dans Mediapart.
Alors, je crois que vous auriez ici autant de réponses qu'il y a de personnes présentes à Nuit Debout. En fait, l'accent est mis pour chaque personne sur un point particulier et chaque personne apporte à Nuit Debout les combats qu'il a envie de mener. Ce que je trouvais que c'est l'intitulé de la manifestation de mardi dernier était joli, en fait. C'est vraiment contre la loi El Khomri et son monde. Et ce monde, il est beaucoup plus vaste que cette loi travail. Mais bien sûr, certaines personnes seront plus sensibles à ces questions de salariat, de monde du travail, de précarisation. D'autres seront plus sensibles à d'autres thématiques. Je crois que peut-être que poussé par l'urgence actuelle, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place. Mais il ne faut pas oublier que Nuit Debout, c'est aussi l'envie de porter une réflexion plus vaste politique sur la manière de faire entendre notre voix, de faire porter nos idées, de s'exprimer, de réfléchir, d'échanger. Ça va bien au-delà du cadre de cette loi travail.
À la base, il faut quand même peut-être le rappeler, hein, Nuit Debout devait s'appeler au départ Nuit Rouge. Voilà, je pense que Nuit Rouge, c'était Ruffin et Fakir donc, qui ont lancé ça avec le collectif Convergence des Luttes. Donc il y avait quand même une dimension sociale qui présidait à cette Nuit Debout. Du coup, on a un peu l'impression que ces considérations sociales et cette critique sociale initiale, c'est peut-être un peu dilué avec d'autres considérations. Moi, j'ai vu par exemple au tout début à Lille une commission sur la cause animale. Bon, a priori, ça peut sembler un peu surprenant par rapport à la première démarche qui avait présidé au tout début. Comment vous...
Donc pour ma part, en fait, ce que vous dites sur que ça devait s'appeler Nuit Rouge, bon, ils ont transformé ça en Nuit Debout. Mm-hmm. Et les échos que j'ai eus auprès des gens, en fait, dans leur tête, ça résonne pas Nuit Debout, ça résonne Nuit Blanche. Et donc déjà, c'est une mauvaise appellation, parce que bon, on n'est pas là pour faire la nuit blanche, quoi. C'est compliqué. Et sur les thématiques toutes abordées, bah c'est pas une réflexion qui viendrait d'une chose, comment dire, comme une constitution d'abord en haut. On part plutôt de la base pour essayer de se regrouper vers une structure commune en fait de réflexion. C'est comme ça, donc, que ça s'est structuré.
Je peux compléter, en fait, peut-être que l'idée au départ était effectivement très liée à ce... Mais la particularité du mouvement Nuit Debout, c'est que justement, elle a aggloméré des gens qui étaient aléatoirement choisis sur la base de leur volonté à changer les choses. Et ce rassemblement aléatoire de personnes fait que ça infléchit forcément peut-être l'idée qui était de départ. Et c'est une chose intéressante parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole ou qui ont des choses à dire et qui s'informent, voilà, qui s'informent dans leur coin, qui s'intéressent à des choses dans leur coin. Et donc, ils portent. Et c'est vrai qu'on a eu on a toujours des commissions très différentes avec des volontés très différentes de changer les choses. Et c'est ça, justement, quand on lit les articles de personnes qui étaient vraiment à la base du mouvement Nuit Debout, même à Paris, disent que le mouvement a pris quelque chose, une dimension incontrôlable et que c'est précisément cette absence de possibilité de contrôler qui fait la richesse du mouvement, parce que...
Ouais. Ou grande âme peut-être de son initiateur, monsieur Ruffin, qui peut-être semble du mouvement, j'ai l'impression, parce qu'effectivement, voyons que, effectivement, sans doute que son projet initial, effectivement, tend à lui échapper, quoi. J'ai l'impression que... Mais bon, après, est-ce que c'est une limite ou est-ce que c'est un... Bon, moi, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt positif, mais bon, donc je sais pas ce que tu en penses.
Je sais pas, mais nuit rouge, moi, j'étais pas pour, parce que pourquoi pas nuit blanc ou nuit rosée ou nuit bière. Il en faut pour tout le monde, ou nuit champagne. C'est pour ça que, à mon avis, c'est pour ça qu'on a pris nuit debout. C'est juste pour pas faire de discrimination par rapport aux alcools.
Rouge, vous renvoyez pas un vin rouge, hein, mais c'était...
On a cru lire que nuit debout venait de... Le mot debout venait de la lecture d'un passage du discours de la servitude volontaire de la Boétie. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, donc sous-entendu, nous passerons la nuit debout. C'est pour expliquer les questions précédentes. En fait, l'idée sous-jacente, du moins, le mouvement Nuit debout est rapidement apparu enthousiasmant parce que susceptible d'enrichir les formes de lutte traditionnelles par son esprit amical, démocratique, anti-hiérarchique. Pour autant, est-ce que le risque, c'est pas que le mouvement tombe en quelque sorte amoureux de lui-même, pour reprendre ce qui a pu être dit ou écrit d'Occupy Wall Street? Est-ce que le risque, c'est pas que Nuit Debout se délecte de sa marginalisation en postulant que ce serait un gage de pureté ou de vertu? Dans un article publié dans le Diplo de ce mois, les deux jambes du militantisme, simplement un passage pour que vous puissiez réagir. Ensuite, on demandera aussi à nos amis de la CGT, ce qu'ils pensent, quel regard ils portent sur Nuit Debout. Le passage du Diplo de ce mois, l'activisme comme expression de nos sentiments profonds n'est que l'un des éléments de la construction d'un mouvement. C'est une tactique qui a été élevée au rang de stratégie en l'absence de toute stratégie. La plupart des jeunes militants pensent que s'organiser consiste à prendre les dispositions nécessaires à la tenue d'un rassemblement ou d'un concert de soutien.
Alors, moi, on peut répondre surtout pour Nuit Debout Lille. Je crois que Nuit Debout Lille se délecte de rien du tout, en fait, et n'est pas du tout amoureux de lui-même. Et il y a beaucoup de questions, beaucoup de difficultés qui sont rencontrées. Dans le texte que vous venez de lire, je trouve que c'est effectivement cet aspect, cette dimension donc logistique d'organisation, d'événements, ne peut pas être la finalité ultime du mouvement. Malgré tout, ça peut être aussi un enjeu, et ça, c'est... Le fait de s'organiser, c'est aussi quelque chose de positif, que les gens prennent en main et se disent « je peux organiser des choses, je suis capable » et ça peut prendre toutes les formes possibles. Et si pour certaines personnes, organiser des événements ou des concerts, ça fait partie d'une manière d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à prendre position, pourquoi pas ? En tout cas, je pense que actuellement, le mouvement de Nuit Debout Lille rencontre alors justement une sorte de difficultés, rencontre des difficultés et cherche justement à aller encore de l'avant, à continuer à se battre, à trouver les formes. C'est pas du tout un repli sur soi-même, mais c'est vraiment une phase d'interrogation productive sur la manière de continuer, de rencontrer d'autres personnes, de retrouver cet élan. Puisque si parfois, on peut dire que le mouvement Nuit Debout s'essouffle. La base, elle est toujours là et elle cherche toujours à aller à la rencontre d'autres personnes. Donc, je crois qu'il n'y a pas du tout ce narcissisme et au contraire, une vraie envie d'ouverture, d'aller à la rencontre de plein de syndicats, d'organisations, d'associations pour se nourrir de leur savoir, de leurs idées et justement continuer à progresser.
Alors, on reviendra après. On fait une petite intermède musicale et on, notamment... On demandera à la CGT ce que vous pensez de Nuit Debout. Vous êtes toujours sur Radio Campus dans l'émission Angle d'Attaque et on écoutait un vieux morceau des Tugs, un groupe de rock angevin qui n'existe plus malheureusement. Welcome to the Club, alors évidemment ça fait référence à la reprise du travail aux usines Vonder, pour ceux qui connaissent, un documentaire qui avait été filmé en juin 68, après que la CGT avait appelé à la reprise du travail, ce qui n'avait pas manqué évidemment de susciter des réactions de rejet, comme la femme que l'on entend dans ce documentaire avec cette envie, enfin, en tout cas de poursuivre le mouvement alors qu'évidemment la centrale syndicale elle s'y oppose. Alors, en parlant de centrale syndicale, je reviens vers la CGT, nos représentants, peut-être Ajdila, on parlait tout à l'heure de Nuit Debout, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi-même, peut-être que est-ce que tu es venu sur la place de la République à Lille?
Je ne participe pas à Nuit Debout. Ceci dit, je trouve ça positif. Hein. Pour moi, c'est une nouvelle forme de rassemblement, d'expression, de personnes effectivement qui ne pourraient pas se retrouver au sein de la CGT ou autres syndicats. Et moi, je vois ça plutôt comme une force et un moyen vraiment démocratique de pouvoir s'exprimer. Après, en espérant qu'on puisse tous ensemble se fédérer et pas en faire un peu comme aujourd'hui une fracture notamment avec la CFDT. Voilà, donc sinon non, moi je trouve que c'est très bien et que voilà, après comme disait Abdel, effectivement c'est très difficile quand on fait partie d'ailleurs aussi longtemps d'un syndicat de pouvoir faire abstraction et participer à autre chose sans mettre quelque part sa patte syndicale, et c'est vrai que je préfère respecter ce rassemblement, ce mouvement et tout en ayant bien sûr un œil sur ce qui se passe, hein, je préfère pas y participer directement, mais néanmoins je sais qu'il y a quelques militants quand même qui participent et qui arrivent à eux tout à fait à faire la part des choses.
Ils ne sont pas rejetés par...
Tout à fait, bien au contraire.
Debout, même s'il y a pu y avoir ici et là éventuellement peut-être quelques frictions.
Moi, je vais ajouter un truc moi qui me satisfait, mais alors totalement, c'est cette prise de conscience justement de monsieur et madame tout le monde, alors qu'on discute de la cause animale, la cause sociale, etc. En fait, on discute des causes de la vie de tous les jours. Voilà, chacun à son niveau, chacun avec son vécu, etc. Et encore une fois, la solidarité. Je ne peux envisager qu'une seule solution, justement. C'est ce tous ensemble. Et ce tous ensemble, eh bien, il viendra par Nuit Debout, il viendra par les organisations dites syndicales, salariées, etc., étudiantes, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nuit Debout a fait beaucoup de bruit, énormément de bruit, et a muselé le gouvernement et tout le monde, parce qu'en fait, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas une organisation bien définie, telle que la CGT, etc. C'est pas, voilà, on a l'habitude avec eux, on sait, ils vont faire des manifs, etc. Là, c'est des rassemblements citoyens, et le peuple qui commence à prendre conscience de la situation globale, générale, tant mieux. Je ne peux être que solidaire, et totalement solidaire de tout ça, j'ai dit, et en espérant vraiment que... un jour, ça se traduise vraiment par tous ensemble et tous dans la rue.
Voilà. En parlant de solidarité, il faut rappeler qu'il y a une caisse de greffe que tout le monde peut alimenter sur Internet ou par courrier.
Tout à fait. Bon, j'étais prêt, moi, à la fin, à vendre un petit peu quand même mes produits. J'ai autocollant, badge, t-shirt, banderole. Non, mais c'est vrai que c'est très important parce que...
C'est aussi de la CGT.
Oui, ah oui, bien sûr. C'est vrai que c'est très important parce qu'en fait, comme on le disait, mais ça fait quand même plus de 3 mois, des fédérations telles que les cheminots, je pense à eux ou à d'autres, hein, mais ou des gens syndiqués, etc., ou non, qui ont plus de 20 jours de grève dans les pattes, et encore une fois, là aussi, et c'est pour ça, encore une fois, on va reboucler, mais c'est sur ça aussi que joue le gouvernement, l'usure, etc., mais l'usure financière, il y a une cagnotte qui est en marche depuis maintenant quelques semaines, je crois qu'on doit être pas loin des 300 ou 350 000 euros de récolté, c'est pas assez parce que vu le nombre de grévistes. Alors je vous invite tous honnêtement à participer directement à travers le net à ce sujet. Et merci à vous de l'avoir rappelé aussi.
Mais c'est aussi fait pour ça, Angle d'Attaque. Puisqu'on évoquait le gouvernement et la CGT, on va évoquer aussi le gouvernement et Nuit Debout. Parce que si on ne peut pas considérer, contrairement à ce que certains soutiennent, que le projet de loi El Khomri marquerait un tournant néolibéral au cours du quinquennat Hollande, puisque ce serait faire fi des précédents épisodes, de l'abandon des réorientations, de l'abandon de la réorientation des désastreuses politiques européennes au pacte d'irresponsabilité, en passant par Valls au MEDEF et tant d'autres épisodes glorieux. Ce qu'on ne peut en revanche que considérer, c'est qu'il y a eu tromperie au moment électoral. À l'occasion des échanges Place de la République et outre les critiques récurrentes à l'endroit du gouvernement représentatif, quelles sont les propositions émises, de quoi parle-t-on entre ceux qui sont mécontents de la situation de carence démocratique qu'on rencontre?
Pour les carences en fait démocratie dans les commissions, justement commission constitution et commission démocratie, on essaye de se réapproprier le langage pour mieux cerner et mieux comprendre en fait ce qui fait que la politique actuelle est compromise, qu'on a affaire à plus à des oligarques et à un petit groupe qui s'accapare un pouvoir au détriment des autres en fait. Et ça réfléchit sur les formes de, comment dirais-je, d'organiser le pouvoir de façon plus horizontale. Et c'est aussi dans d'autres commissions, une manière de voir comment on peut limiter les pouvoirs en fait pour que ça soit équilibré. Voilà.
La question démocratique est au cœur de cette émission puisque on évoquait donc cette première imposture démocratique avec l'élection du gouvernement. Cette première imposture démocratique, elle tend à se coupler avec une seconde. C'est l'imposture de la démocratie d'entreprise. On l'évoquait avant l'émission. Est-ce qu'on peut on peut en dire quelques mots là rapidement? On a encore quelques minutes, Adjila. Sur cette question de la démocratie d'entreprise, cette imposture de la démocratie d'entreprise, cette idée, on pense à une phrase de Rebsamen qui avait dit que le contrat de travail n'emportait pas de rapport de subordination, qu'il était librement négocié entre deux personnes qui s'échangent leur consentement mutuel, cette vision qui transpire un peu le 19e siècle.
Bon, c'est une vision complètement fausse, hein. Forcément, il y a un rapport de subordination dès lors qu'on travaille pour un patron. Après, plus précisément, par rapport à la loi Khomri, nous, bon, effectivement, on parle beaucoup de la hiérarchie des normes. Bon, il y a la loi complète à retirer. Néanmoins, c'est vrai que l'inversion de la hiérarchie des normes, pour nous, c'est très important. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Donc elle précise que désormais, les accords d'entreprise pourraient être moins favorables que les accords de branche ou la loi. Et derrière tout ça, donc on nous précise quoi? Donc, bon, si le syndicat, c'est 50%, il signe ou il signe pas, et à défaut, ce sera les salariés. Et nous, le problème, c'est pas le salarié, c'est la confiance qu'il y a derrière tout ça et toutes les pressions qu'on connaît déjà aujourd'hui derrière ces salariés. Où on va leur dire si tu signes pas, on te vire. Si tu signes pas, l'entreprise, elle se casse la gueule. Voilà, il y a aussi ce manque de culture populaire hein, qui est assez criant. Et c'est peut-être pour ça aussi que Nuit Debout existe aujourd'hui. Et c'est sur ça. C'est sur cette non-confiance qui fait que on ne peut pas accepter cet article 2.
Donc il y a une auditrice qui demande s'ils n'ont pas internet, comment alimenter la caisse de grève? Est-ce qu'il y a une adresse ou...
J'ai un compte perso, mais je ne sais pas si.
Oui, dans ce cas-là, ça peut-être sera. On l'a au téléphone ou je réponds directement à tout le monde?
Faut mieux répondre.
Oui, moi je pense qu'il faut alors se rapprocher des structures, soit locales ou départementales, de la CGT. Donc essayer de contacter les structures là-dessus.
Ok.
Voilà. Après, bon, je peux donner le numéro de téléphone de Roubaix, mais on voit.
Tu peux. Hein.
En tout cas, pour ce qui est de l'Union locale CGT de Roubaix, l'adresse c'est 78 boulevard de Belfort. Le téléphone, c'est... Enfin, boulevard de Belfort à Roubaix. Le téléphone, c'est le 0320 89 63 18. Voilà.
Bon, ben c'est plutôt rassurant. On est écouté. Et en plus, peut-être que cette émission va permettre d'améliorer la caisse en question.
Ah oui, et si je peux permettre, en parlant de solidarité, si tu citais tout à l'heure doucher les mines, etc., où il y a une réelle, ça aussi, il faut encore le souligner, parce que ce qu'on peut entendre au niveau média, mais... Au niveau des gens, il y a une réelle participation et solidarité mais tout, alimentaire, financière, le soutien moral, etc. Des personnes qui ont soi-disant été bloquées dans leur situation professionnelle, personnelle, etc. Ce qui est totalement faux. Voilà.
C'est ce qui est assez formidable, effectivement, puisque on voit cette volonté du gouvernement de fractionner les enjeux entreprise par entreprise. Il y a un vrai mouvement. On cherche à enfermer les salariés dans le dilemme cornélien que tu évoquais, Adjila, le perdre son emploi ou accepter des baisses de salaire et augmenter le temps de travail, et donc se mettre en concurrence avec les autres salariés des autres entreprises.
Smart est un exemple, d'ailleurs.
Oui, absolument, absolument. Et ce qu'on peut souligner aussi, peut-être, c'est la bassesse du gouvernement qui, peut-être au souvenir de ce qu'a été 1995, craint, semble-t-il, de mettre en œuvre de façon frontale et explicite ses ambitions, mais passe subrepticement par justement cet article 2, entreprise par entreprise, pour que ça se voit moins en fait qu'une loi. Petit à petit, ça va se faire, les entreprises vont accroître le dumping entre elles, et c'était assez important, je trouve, de souligner la bassesse du gouvernement de ce
point
de vue-là.
Et ce qui est important de souligner aussi, c'est le nombre majeur d'entreprises sans représentativité syndicale, hein, ce qu'on appelle PME, TPE, etc., ce qui représente déjà le premier bassin d'emploi en France, hein, et qui n'ont pas, eux, de représentants syndicaux, etc. Alors une entreprise où il y a 2-3 salariés, on nous dit c'est une entreprise familiale, il faut comprendre. Une entreprise où il y a moins de 10 salariés, c'est normal parce qu'on ne veut pas déléguer du personnel. Et ces entreprises-là, de toute façon, elles sont déjà elles-mêmes, en tant qu'entité d'entreprise, artisans, etc., elles sont déjà soumises au chantage des donneurs d'ordre. Donc voilà. Donc l'inquiétude, de moi, ne se pose pas sur les grosses boîtes. L'inquiétude, c'est sur la majorité des petites boîtes. Ce qu'on a, nous, tous les jours, en venant au niveau des salariés, venir se plaindre. Et c'est là qu'on se rend compte de la réalité, qui existe déjà depuis longtemps. Comme je disais précédemment, ils n'essayent que de légaliser le système déjà bien pourri qui a été mis en place, la pression sur les salariés, la mise en concurrence, ils n'hésitent pas. Ils n'ont aucun état d'âme là-dessus. Voilà.
On va peut-être avancer l'émission, parce qu'il nous reste 10 minutes. Et...
Oui, effectivement, l'émission va bientôt s'achever. Alors, comme à d'habitude, hein, on va décliner quelques événements qui font sens par rapport à cette émission, donc dans la chronique Agenda. Je commence. Alors, tout d'abord, premier événement, on a appris que le 9 janvier 2017, à Dax, s'ouvrirait le procès pour vol en réunion d'un ami faucheur de chaises, John Palais, militant de Bizi et d'ANV COP21. En ce sens, donc, ANV COP21 attaque les Amis de la Terre et Bizi, propose donc de faire de ce procès celui de l'évasion fiscale et vous donne donc rendez-vous le 9 janvier 2017 à Dax. Voilà, donc si vous êtes dans le Pays Basque... En janvier, vous pouvez aller soutenir donc ce militant.
Autre actualité, les 16 et 17 juin, donc hier et avant-hier, les ministres des Finances des 10 États concernés par le projet de taxe européenne sur les transactions financières, revenons-en aux sources d'attaque, se réunissaient. Alors on ne sait trop encore ce qu'il en est, mais aide les Amis de la Terre, attaque, la Coalition Plus, One, Oxfam France et le RAC rappellent que ce qu'il manque réellement à la mise en œuvre d'une taxe ambitieuse sur les transactions financières, c'est la volonté politique sans laquelle, on le rappelle, rien n'est possible.
Alors autre chose, alors que l'Euro de football donc, a débuté, comme vous le savez, hein, il suffit d'aller dans le centre de ville de Lille pour voir ce qui s'y passe, et il s'en passe des choses qui ne sont pas forcément très réjouissantes. Donc cet Euro de football a débuté donc depuis une semaine, et Attaque publie en avant-première le texte de Michel Caillat et Marc Perelman qui figurera dans le prochain numéro de la revue des possibles. Je cite donc un extrait de ce texte. « Le sport prêche des valeurs de pureté, de loyauté, de respect, de tolérance, de solidarité, qu'il ne porte pas, mais en diffuse beaucoup d'autres qui en sont l'antinomie. L'apologie de la compétition, éloge de la souffrance, de la discipline, de l'héroïsme, de l'effort pour l'effort, culte des chefs et de la hiérarchie, élitisme, exacerbation de l'individualisme, du mérite personnel, respect des inégalités, virilité dominatrice, admiration populiste des héros. » Délire patriotique, anti-intellectualisme, etc., etc. Fait de l'ordre établi, le sport présente l'avantage d'être un conditionnement idéologique facile, s'appuyant sur le besoin qu'éprouve
toute communauté de s'identifier, de s'évader, de vivre par procuration. L'institution sportive façonne durablement notre manière de penser. Elle ne pourra pas fonctionner sans une adhésion subjective des sportifs et des non-sportifs. Plus que jamais, on peut parler du sport comme d'un inconscient social. L'Euro 2016 en est la parfaite illustration.
Et rapidement, puisque nous évoquons l'Euro de football, en guise de scène lecture, vous pouvez jeter un œil au dernier billet sur le blog de Jean Gadré, sur comment ils nous ont volé le football. Et par ailleurs, pour ceux qui ne s'intéressent pas au match de la France 2 demain, et puisque cette émission est consacrée à ceux qui luttent, Mediapart organise un live, dont on rappelle qu'ils sont gratuits, en soutien à Julian Assange.
On rappellera également qu'Attaque et 350.org appellent à voter non le 26 juin prochain à l'occasion de la consultation autour du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. On parle beaucoup du Brexit, mais on a un peu oublié effectivement qu'il y a une consultation le 26 juin. Également qu'à Notre-Dame-des-Landes, les 9 et 18 juillet prochains donc, se tiendront comme tous les ans depuis 2011, les journées Notre-Dame-des-Landes, semaille de démocratie.
La veille de cette consultation à Notre-Dame-des-Landes, le 25 juin, le collectif Stop TAFTA de la métropole lilloise devait accueillir le cheval de Troie des traités transatlantiques. Et faute d'avoir obtenu une place publique à occuper, la venue du cheval est annulée ou du moins reportée, puisque nous travaillerons cet été à l'organiser au terme du mois de septembre.
Et pour ceux et pour celles qui souhaiteraient un été militant, vous trouverez sur le site d'Attaque des informations concernant l'université d'été donc de l'association, qui se tiendra du 6 au 9 juillet à Besançon, donc le 9e Altervillage d'Attaque, qui aura lieu dans l'Indre, sur la commune de Pellevoisin, du 14 au 21 juillet. Et pour ceux qui ont la possibilité d'aller au Canada et au Québec, le Forum Social Mondial, dont on parle peu, ou de moins en moins, j'ai l'impression que par rapport au Forum de Davos, ce Forum Social Mondial se tiendra du 9 au 14 août à Montréal, au Québec. On peut enfin citer l'action que prépare pour début juillet le collectif Houille, Houille, Houille pour accueillir au port Métanier de Dunkerque le premier navire amenant du gaz de schiste des États-Unis, la France ayant récemment signé un contrat d'importation.
Et pour terminer, un coup de gueule rapidement, un coup de gueule entre guillemets. Pour démontrer combien nous sommes impartiaux, objectifs, on a cherché un bon point à attribuer au projet de loi El Khomri. Et nous désespérions jusqu'hier de ne pas le trouver, ce bon point. Pourtant, on a cherché et croyez-nous. Et finalement, ce bon point, notre salut, il est venu hier des deux sénateurs Front National, qui l'eût cru, qui en l'espace de quelques heures, entre le matin et l'après-midi, ont d'abord déposé, puis retiré, suite à la publication d'un article sur Public Sénat, une dizaine d'amendements au projet de loi travail. En quelques mots, ces amendements, doublement des seuils sociaux de 50 à 100 salariés, retour de la défiscalisation des heures supplémentaires, multiplication des exonérations de cotisations sociales, réduction à 2 mois de la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires qui permet de caractériser les difficultés économiques et autorise par suite les licenciements économiques, suppression du compte pénibilité, compétence pour l'employeur de demander au délégué syndical qu'il justifie de l'usage de son crédit de délégation, suppression des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, suppression de l'article sur le harcèlement sexuel et renvoi aux origines chrétiennes de la France à l'occasion des jours fériés. On se demande à Angle d'Attaque s'ils sont toujours convaincus à l'extrême droite que Jaurès aurait voté Front National. Une petite réaction peut-être de...
Non, enfin, on ne va pas avoir le temps. Moi, je vais faire quelques petits rappels pour l'agenda local. Pour commencer, une discussion qui est organisée par Attaque autour de l'évasion fiscale qui sera au théâtre de Pierre de Roubaix, donc à Roubaix. Donc c'est le lundi 20 juin à 18h. Donc le terme, ce sera « Citoyens, pourquoi et comment combattre l'évasion fiscale si on répartissait autrement les richesses ?» Donc avec CCFD, Terre solidaire, Attaque et Éric Bocquet, sénateur du Nord. Si vous avez envie de passer une fête de la musique militante, vous pourrez occuper la friche de la gare Saint-Sauveur, donc mardi, à partir de 17h. Donc la friche de la gare Saint-Sauveur, c'est 17 hectares. Et donc on accueillera des musiciens et leur public pour découvrir cette friche. Et vous pouvez venir avec vos instruments ou ce que vous voulez pour animer et vous amuser sur la friche. Le 22 juin, on a encore un peu le temps, à 18h, deuxième brigade antisexiste de Lille. Donc les Lillois et Lilloises se retrouvent pour cette deuxième brigade. Si vous avez marre de voir des affiches publicitaires sexistes, marre de voir des femmes chosifiées dans les espaces publics, Si vous avez déjà ou pas participé à la première, ce qu'on appelle BAS de Lille, vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez contacter les organisateurs de Facebook pour connaître le lieu de rendez-vous précis. Et le mercredi 29 juin de 14h à minuit, c'est le 20e anniversaire de la lutte des sans-papiers. Donc ça sera aux salles du gymnase Place Sébastopol à Lille. Donc au programme, projection, discussion, concert, expo, table de presse, petite restauration. Et puis on rappelle les manifestations contre la loi travail et son monde, jeudi 23 et mardi 28 juin à 14h30, comme toujours, départ Place de Paris à Lille, et d'autres manifestations sont également prévues dans la région. Renseignez-vous.
Alors, c'est sur l'annonce de ces manifestations que nous allons nous quitter. Je remercie tous les invités d'avoir accepté de participer à cette émission. Notre